Georges Anglade, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à Magic 9. C'est la discussion de votre hebdo publié chaque mardi dans le Nouvelliste. Cette fois, c'est le 35e hebdo qui va faire l'objet de nos discussions. Encore une fois, on continue avec les boules de l'État. Cette fois, c'est la prise 4, les missions sectorielles de l'État, aménager, éduquer et soigner. Ce que tout le monde attend, en quelque sorte, de l'État, ce sont les missions les plus
connues, les plus courantes, les plus habituelles. Bonjour tout le monde, bon chaque auditeur et chaque auditrice. Et maintenant que nous sommes en onde le jeudi matin, le jeudi 13 mars, sur l'hebdo du 11 mars, et vous avez la chance au moins de peut-être de pouvoir écouter en regardant votre article de l'avant-dernière page du Nouvelliste. Ce sera d'autant plus facile que ceci permettra à l'écrit et à l'oral de s'exprimer. On pourra prendre beaucoup plus de facilité. Les boules de l'État prises 4. Nous avons vu 1, 2, 3, 4. Nous avons vu surtout les boules et les sectoriels, les missions sectorielles, les différents secteurs de base qui sont au fondement de la démocratie et du développement, que sont les mailles, les flux et la justice. Et la grande nouveauté, c'était cette introduction de la justice comme une dimension absolument principale de la structure nationale comme revendication populaire de base. Et justice, justice, le besoin de sentir cette justice exprimée. Alors ces trois boules donc sur la main et les flux et la justice ont permis de repositionner les dimensions sectorielles, les dimensions pardon structurelles la dernière fois. Ici, nous parlons des secteurs. C'est la chose la plus commune et la plus courante. Et on va dire des secteurs que c'est la justice sociale, les investissements humains. C'est ce à quoi nous recourons le plus facilement quand on atteint l'école. Il y a un État formateur, c'est l'éducation. Il y a un État bâtisseur, ce sont les infrastructures. Il y a un État guérisseur, c'est le bien-être. Donc, c'est la partie la plus commune, la plus courante, la plus évidente. On attend que l'État intervienne. D'ailleurs, dans nos cartes, dans nos rapports, dans tout ce qui est produit sur Haïti actuellement, on retrouve souvent ce sont les missions sectorielles qui sont mises de l'avant. Alors qu'au fond, les missions structurelles que nous avons vues la semaine dernière sont très importantes et devraient faire l'objet d'un énorme effort théorique. Et comme cet effort théorique à faire est plus grand et plus fort, c'est bien pourquoi il est mis de côté au profit des missions sectorielles qui sont beaucoup plus simples. Les gens demandent l'école, les gens demandent les infrastructures, les gens demandent le bien-être. Et voilà, nous voilà rendus dans ce monde-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit, bon, et ça peut aller à l'infini, on peut faire un ministère avec chacune des responsabilités sectorielles de l'État, mais en fait, en les regroupant en trois grands champs, ceci permet d'avoir une vision beaucoup plus sérieuse. Et c'est pourquoi nous avions demandé que les TDR, les termes de référence, le contrat de travail, surtout dans le sectoriel, soient bien définis, parce qu'il y a un contrat de travail en éducation, un contrat de travail sur l'infrastructure, et puis un contrat de travail sur le bien-être, sur la santé, l'état guérisseur, les trois principaux. On peut glisser un tas de choses entre les deux, mais enfin, les trois principaux sont là. Et sur les contrats de travail, on insiste là-dessus. Et puis on peut dire que, évidemment, on ne sait pas si ce raccourci essentiel des contrats de travail sera pris ou non, mais enfin, on pourra toujours en discuter.
Enfin, les gens s'en parlent beaucoup, mais à chaque fois, c'est presque de la rigolade.
Enfin,
j'ai l'impression que c'est trop sérieux pour qu'on passe à l'application.
C'est possible. C'est que les interventions qui se font dans le journal, par exemple, et au niveau de la radio, on a l'impression que les gens écoutent, les gens disent qu'ils lisent, les gens savent que tout ceci marche. On devrait avoir des mouvements de fond et pourtant, ça ne soulève même pas une paille. On a l'impression qu'il y a un énorme décalage entre l'urgence, le besoin qui est formulé, et puis on s'arrête là une fois la formulation faite.
Enfin, Georges Anglade, avant de continuer avec les boules de l'État telles que vous l'avez présentées dans le Nouvelliste, on va faire un petit... Enfin, c'est pas un flashback, mais quand même, vous avez été un auteur à succès. Vos formules... que ce soit le 10e département, que ce soit éloge de la pauvreté, que ce soit la chance qui passe, à chaque fois, vos documents, vos publications et les raccourcis que vous trouvez pour mettre dans une formule une situation, cela a toujours eu du succès, mais cette fois-là, avec les hebdos, j'ai l'impression, est-ce que c'est parce que vous êtes trop proche du terrain? Est-ce que c'est l'impression... Enfin, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose de bizarre, on ne vous cite plus.
Ah oui, ça c'est... Tout le monde vous accroche dans la rue pour vous dire que ça marche, mais enfin, on ne retrouve plus la dynamique. Il n'y a plus ce contact, je dirais, entre la fonction publique et pas seulement moi, pas seulement l'hebdo, ce qui se passe dans les journaux en général, ce qui se passe à la radio en général, a l'air d'être complètement décollé de la pratique et de l'appareil d'État. Et on est sur deux mondes parallèles. Il y a une logique qui est la logique qui se continue et qui se poursuit l'appareil d'État jusqu'à son plus haut niveau. Et puis ensuite, les interventions, le peuple, la rue, les réflexions, tout ceci est dans un monde complètement qui ne se touche pas. C'est comme si c'était deux univers totalement différents. Et cette expérience est celle partagée par tous ceux qui essayent d'intervenir, qui essayent d'analyser et qui n'ont aucune prise, si vous voulez, sur la dynamique nationale telle que la fonction publique, les responsables, ministres et autres sont en train de la mener. C'est une autre logique.
Vous avez présenté une hypothèse, bon, c'est l'addendum de ce hebdo, mais l'hypothèse de Georges Anglade, enfin, moi j'ai beaucoup souri. Vous dites que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vu en rêve la Vierge, leur apporter un hebdo de Georges Anglade, c'est peut-être pour ça.
Ben oui, j'en suis là, c'est qu'après 9 mois et 35 hebdos, et le peu de réaction dans le monde, dans la responsabilité d'État, dans la fonction publique, par rapport aux réactions qu'ont les gens à l'écrit, ont les gens à l'extérieur, les discussions qui ont cours, la fonction publique est absolument immobile. Alors je me demande, qu'est-ce qui explique ça? Rien, zéro. Qu'on n'ait pas touché au manguier, qu'on n'ait pas touché à toutes les sommes de publications. C'est quand même le numéro 35. Et l'objet de ces hebdos depuis le début, et c'était pendant l'année 2007-2008, de toucher au fondement comment réfléchir à la nouvelle conjoncture, comment penser le tricentenaire, comment penser le nouvel espace haïtien. C'est quand même extrêmement important. Or, ça n'a pas d'impact du tout. Alors, je me suis demandé, bon, de toutes les hypothèses que je pouvais faire, j'ai pris celle qui me faisait le moins rire. J'ai dit, bon, c'est peut-être que la Vierge, n'ont pas encore rêvé que la Vierge est venue leur montrer un hebdo du Nouvelliste en rêve, puisque les responsables politiques, ministres, directeurs généraux et autres, fonctionnent comme s'ils étaient en dehors de cette logique de lecture, en dehors de cette logique d'écoute. Ils sont polarisés sur autre chose, et j'ai l'impression, et puis disons-le, ils sont polarisés, que pense le président, que pense le premier ministre, que pense mon ministre, un point c'est tout, c'est-à-dire que crie le peuple en famine, que hurle la foule, que gronde la révolte, que monte, si vous voulez, l'insatisfaction. Tout ceci, c'est de la blague. Il s'agit de définir sa position par rapport au chef. Un point, c'est tout. Alors, à ce moment-là, ça devient extrêmement limité dans la dynamique d'un pays qui est en train de muter.
Mais est-ce que aussi, c'est pas parce que vous faites une nouvelle expérience sur un média qui est beaucoup plus immédiat? C'est-à-dire, quand Georges Anglade écrivait une thèse, écrivait un ouvrage, écrivait un rapport, tout le monde n'était pas au courant. On avait l'impression, quand cela ressortait dans un discours, que c'était même l'élu ou bien le responsable qui avait trouvé tout seul l'idée, mais même si l'idée avait été pondue par Georges Anglade dans un livre que 4, 5, 10, 15, 20 personnes avaient lu. Mais maintenant que directement, chaque semaine, dans le Nouvelliste, vous faites part de vos idées, est-ce que ce n'est pas peut-être ça aussi l'objet de la réticence? Personnes sont au courant, même si c'est important, mais on ne va pas partager ça, on ne va pas faire ce plaisir à l'intellectuel.
Ben c'est possible que ça. C'est possible que ce soit ça également. Le fait que ce soit immédiat, et c'est ce que nous voulions, c'est-à-dire c'est sortir la réflexion d'un cabinet. C'est aller dans la rue. Prendre le média, aller au niveau de l'avant-dernière page du Nouvelliste, c'est mettre la réflexion et le débat au service de tout le monde. Et pire encore, c'est que monsieur et madame tout le monde reçoit sa consultation, reçoit son hebdo, reçoit sa conversation et ce petit dialogue que l'on établit avec lui en même temps que n'importe qui d'autre. Donc tout le monde le reçoit en même temps. Et il n'y a plus quelqu'un qui détient une information qui sert par rapport à l'autre et se fait une opinion. Peut-être avant même le responsable. Alors, ceci crée, il y a quelque chose de provocateur, il est vrai. C'est-à-dire, n'importe qui sait que ce lit s'adresse. Enfin, dit, voilà la lettre que devrait écrire le président ou directeur du FMI. Madame qui ramasse son nouvel lit avant le ministre est au courant de la lettre et dit, ben tiens, donc c'est vrai, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord 20%, pas d'accord 20%. La discussion démarre et alors que le responsable n'a plus l'autorité de dire « voilà, j'avais ça dans mon fond de tiroir ». C'est d'ailleurs l'un des problèmes. On peut voir autour de la primature, on peut voir autour de la présidence énormément de redoutables spécialistes dont on n'entend rien, qui ne disent rien. On a beau chercher ce qu'ils ont écrit, on le voit pas. Depuis un an, deux ans, trois ans, c'est en 10 ans là qu'on n'a encore jamais vu ce qu'ils ont dit dans tel ou tel secteur. Ils n'ont jamais parlé. Ne pas parler, ne pas écrire, c'est la condition de la survie. Alors, à quoi bon? C'est-à-dire que comment circule cette information? Comment informe-t-on? Comment débat-on? C'est-à-dire que c'est le silence qui est l'outil politique de son maintien. C'est-à-dire, taisez-vous et tout ira bien. Alors, quand on en est là, la parole... Alors, c'est l'une des contradictions entre la diaspora et l'intérieur aussi. Alors qu'on a éduqué tous ceux de l'extérieur sur c'est la parole qui est l'outil de leur prise de position dans leur société et ce que font bien nos nouvelles générations de jeunes haïtiens à l'étranger. Et ici, on essaye de dire à ceux qui sont là, alors écoutez, taisez-vous, c'est dans le silence que se fait la promotion. Ceci ne peut pas continuer, puisque s'il y a un échange permanent, ce n'est pas dans le silence et c'est en train d'exploser. C'est cette situation...
Ou tout au moins, bon, quand ça parle beaucoup, c'est souvent pour du futile.
Ouais, aussi. Donc, c'est ceci qui est en train de moderniser le pays aussi. C'est-à-dire ce va-et-vient, cette explosion que je dis, de cette émergence de nouvelles classes moyennes, cette explosion, cette nécessité de formuler et de dire ce que l'on a à dire, ces expectatives et ces chantiers, eh bien, on ne peut pas dire que je ne parle pas, on ne peut pas faire carrière sur le silence. Et c'est ça qui doit changer pour que ce pays aussi se modernise. C'est-à-dire sortir de ce silence-là qui est tellement favorable à la ticoulouterie, à la timounerie, etc., etc.
D'accord, je vois que enfin, dans votre hebdo de cette semaine, vous refilez l'idée des termes de référence à Monsieur Réforme Administrative, un ami, enfin, un homme sérieux, enfin, c'est comme ça que vous le présentez. Vous croyez que les termes de référence vont avoir un avenir meilleur si cet ami aurait l'idée de vous prendre au mot et d'essayer de proposer les termes de référence?
Je pense que ça devrait l'être. C'est un redoutable. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de réformes administratives en ce pays, et depuis des années, qui est un homme sérieux, je dis l'ami sérieux, mais qui est un spécialiste des termes de référence. Il est capable, en s'enfermant avec un ou deux autres, en un mois et demi, de pondre les 150 à 200 TDR, termes de référence et contrats de travail, en reformulant toutes les... Et ceci, je dis que ce sera un grand pas à l'étrier. Je dis oui, il faut qu'il y ait, que ceci soit fait. Il faut que quelque part, on finisse par se résigner à faire ce pas qui prendrait 2 mois. Mais il faut le sortir aussi des cabinets de travail, des tiroirs. C'est-à-dire de ces gens assis là et qui, dans la société, traversent cette société. Il y en a qui ont fait toute une carrière de 5 ans en étant présents ici. On ne leur a jamais entendu parler, on n'a jamais vu ce qu'ils ont écrit. Après, de 2000 à 2006, ils n'ont pas pondu un texte sur leur expérience accumulée. Quand d'autres ont eu le temps de faire 1 livre, 2 livres, 3 livres d'intervention, ils sont revenus à nouveau au pouvoir, évidemment, et spécialisés maintenant dans le coup de langue, puisque l'œuvre n'est pas écrite. Ils n'ont rien à proposer, et puis s'est refermé à nouveau dans le silence. Je pense qu'il devrait y avoir une interdiction à pouvoir faire 15 ans dans un domaine sans avoir jamais rien écrit. Alors c'est ça aussi les termes de référence, c'est ça aussi l'université qui vous oblige à publier, qui vous oblige à dire l'expérience faite, qui n'accepte pas cette privatisation de l'information.
Georges Anglade, enfin, vous le soulevez, enfin, pas avec les mots que j'aurais employés, mais vous parlez là d'une catégorie bien précise de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de conseillers de président, de conseillers de ministres, de conseillers de directeurs généraux, dont on ignore le nom, parce qu'ils ne sont pas visibles, ils n'ont pas de poste visible, dont on ignore l'adresse, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont logés, où est-ce qu'ils sont assis, comment ils sont arrivés là. Mais ils ont pour fonction de conseiller. Et là, vous dénoncez qu'ils ne publient rien, qu'ils ne proposent rien, qu'ils ne disent rien.
Ils ne soumettent rien à un débat. Ce que je dis, c'est qu'il y a une prise de parole publique. Quand quelqu'un me fait dire de ce monde-là, « Ah, je ne suis pas d'accord avec ton analyse de telle chose », je dis « Mais... »
Écris ton article.
Écris ton article, pleine page. Parce que tu es quand même un écrivain d'articles. Exprime ta pensée et puis nous en débattrons. Viens à la radio, on en parlera. Ah non, il n'en est pas question. Mais quand ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans,
mais en fin de compte, c'est pas acceptable. C'est très confortable.
Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire, c'est sur le silence que l'on fait carrière ici. Et malheur à celui qui parle. Alors, ils ont des exemples. Ils ont raison, quelque part. Ils ont absolument parfaitement raison. C'est dans le silence qu'on est le mieux, c'est dans le silence qu'on fait tout. Et alors que ce pays crie et a besoin de dialogue, ce pays crie et a besoin de parole publique. et nous assistons à ça. Alors, c'est pourquoi il aurait fallu aussi qu'il y ait, si vous voulez, cette injonction de participation publique, de prise de position publique. Ce n'est pas quelques colloques où l'on radote de deux ou trois choses qui vont changer. Et puis Dieu sait si, bon, je participe à des colloques dans ma vie, c'est le métier même de l'universitaire, mais des colloques qui ont du sens, qui vont vers quelque chose, qui ont un point précis et puis qui vont répondre à cette question. Donc voilà où on en est.
Revenons donc aux missions sectorielles de l'État. Enfin, vous parlez d'aménager, d'éduquer, de soigner. Comment vous voyez qu'on peut à la fois en parler et aussi en parler pour introduire le changement dans tout ça?
Bon, l'espace des missions sectorielles. Oui, on a vu les structurelles et puis on en vient à comprendre que les missions sectorielles sont une partie à l'intérieur même des structures. C'est ça les boules de l'État. Il y avait une logique de présenter au début où il y avait 4 séries de graphiques de boules séquentes et où on voit la place et l'ordonnancement de chacune de ces missions. Arriver au sectoriel, c'est la partie la plus simple, je pense, de l'État. C'est la partie la plus facile. C'est la partie la plus évidente. Et nous sommes bloqués à ce niveau. Nous n'arrivons pas à sortir de ce niveau. Par exemple, pour parler de la souveraineté, pour parler de la coordination, pour parler des structures. C'est ce niveau le plus simple, je dirais, le plus facile, c'est le sectoriel. Alors, disons, éducation. Bon, on a toujours eu des ministères de l'éducation, on a toujours eu un projet de formation, il y a toujours eu la nécessité d'alphabétisation, il y a toujours eu des développements sur l'université, alors que les moyens que nous avons, du point de vue sectoriel, parce que c'est l'État, c'est la tâche de l'État, de fournir, si vous voulez, à l'ensemble d'une population les services. Or, cet État est un État faible. Cet État est un État de misère. Les accumulations sont faibles. Il ne peut pas, jamais cet État n'a de fonds. Écoutez, c'est 4% du budget alloué à l'agriculture. Quand l'agriculture est la chose la plus fondamentale sur laquelle nous devrions nous appesantir actuellement pour assurer, si vous voulez, ce riz pour tous et à la fois cette autonomie alimentaire, 4%. La santé, 4%. Quant à l'environnement, c'est 0,4%. C'est même pas 4%, c'est 4 pour 1000. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose, quelque part, à faire sur ce budget. Où passe. Alors, j'aimerais d'ailleurs, c'est l'une des interventions que je ferai ici, là, actuellement, j'aimerais bien voir quelques textes sur le budget, sur la logique de distribution de ce budget. J'aimerais bien comprendre, par ceux dont c'est le métier d'analyser des budgets, de m'expliquer comment se font les répartitions et à quelle logique correspondent les... Qu'est-ce qui va sur le structurel? Qu'est-ce qui va sur la souveraineté? Qu'est-ce qui va sur la coordination? Mais quand un seul point absorbe plus de 50% de tout le budget et que ce seul point est orienté sur le pouvoir central, ben, il y a un problème quelque part. Est-ce que la souveraineté et la représentation puissent absorber tout ça? Nous avons connu une période où il y avait des petits projets de la présidence. Mais ceci ne relève pas de la tâche de souveraineté et de représentation. C'est une tâche d'intervention qui peut représenter dans le structurel. Qu'est-ce qui s'en va à la coordination? Ce budget doit être mis public et analysé. Je crois que... Pour ceux qui tiennent des chroniques économiques, il y a une urgence de budget. Et je pense qu'il faut qu'on commence maintenant à solliciter des informations là-dessus. Bon, bref, voilà. Alors, quand on a moins de 4% sur un item de ce genre aussi fondamental, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a même pas 10% de ce qu'il faudrait avoir? Ben, il faut définir très vite comment on va l'utiliser. Il faut définir très vite, puisque je n'ai que 10%. Si j'avais 25%, j'aurais une autre politique. Si j'avais 50% de mes besoins, j'aurais une autre politique. Si j'avais 75% de mes besoins, j'aurais une autre politique. Mais quand je n'ai que 5% de mes besoins, qu'est-ce que je fais? Dans quoi j'investis? Je ne peux pas me permettre d'investir dans les wagons. Il faut que j'investisse dans la locomotive qui tire les wagons. Et en éducation, quelle est la locomotive actuellement? Voilà la question qui m'amène à chercher dans quel champ de l'éducation. Il me faut investir les ressources que j'ai actuellement qui me permettent, à partir de ces ressources-là, d'attirer l'ensemble des wagons derrière la locomotive. C'est ainsi que je définis l'Université d'État d'Haïti et le problème de la propédeutique dans l'Université d'État d'Haïti maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, comme étant la seule locomotive dans laquelle on puisse faire un investissement qui permette de tirer l'ensemble des wagons en créant les professeurs, les professionnels, les trucs, tout ce qu'il faut immédiatement, qui va permettent à l'ensemble de bouger. Il faut que dans chacun de ces secteurs, on trouve le levier qui permette à un investissement de l'ordre de moins de 10% de faire la différence. Parce qu'on peut avoir 50% entre les mains et ne pas pouvoir faire la différence parce qu'on investit dans un état de wagon secondaire. Le saupoudrage, la politique actuelle, étant la pire de toutes les politiques. Regardez en matière de santé. Il y a un hôpital général d'Haïti qui est resté gelé lui-même depuis une infinité de temps, sans qu'on puisse jamais bouger, etc., etc. Maintenant, trouvons la locomotive dans la santé qui nous permette de rompre à la fois avec la misère et avec le problème de santé et de l'augmentation de cette population. Investissons, il n'y a qu'un seul type de locomotive dans ce cas-là. Mettons tout ce que nous avons sur la santé des petites filles, jeunes filles, maman. Mettons le tout sur la santé des jeunes filles, on va casser le cercle vicieux de la pauvreté, nous allons faire passer le nombre d'enfants par femme de 7 à 4 à 3, automatiquement que nous investissons dans la santé des filles et dans le savoir des filles, et vous avez une dynamique qui s'enclenche. Mais c'est une décision politique, il faut un courage politique pour travailler dans le sectoriel, en rompant, si vous voulez, avec des attitudes traditionnelles. Mettons tout sur l'université d'État et sur la propédeutique. Et vous allez voir changer ce pays en 2 ans. Et vous allez voir changer la santé en 2 ans en mettant tout sur les petites filles. Tout comme, troisième champ, c'est l'État bâtisseur, les infrastructures. Il est de notoriété, vous et moi, nous connaissons bien les travaux publics. Il est de notoriété qu'il n'y a pas un centime une fois payé les salaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand la structure de l'État bâtisseur, les infrastructures finalement, ne sont pas financées et ne peuvent pas être financées. Parlez de réseau routier, de maillage routier, dans la conjoncture actuelle. Que signifie avoir un réseau routier dans la dynamique de l'économie actuelle? C'est-à-dire de transfert d'abord de l'extérieur vers l'intérieur, de communication entre l'intérieur vers l'intérieur, qui est notre premier item, notre première source de financement. Et deuxièmement, la répartition, la production nationale, comme elle doit se faire à travers les marchés, les lieux et les modes de concentration. Eh bien, on sent bien que le maillage routier, qui fut important à l'époque où on prélevait le tout sur les paysans, le café et autres, etc., qui fut essentiel dans d'autres figures de structure des infrastructures, ne l'est plus. C'est-à-dire, il devient plus important que pour maintenant de comprendre que la locomotive actuelle de l'économie en termes d'infrastructure puisse se définir en termes de cybercafé dans les 650 sections communales. Si nous avons ce réseau de communication d'Internet et de communication dans la totalité des 650 sections communales, vous avez tout de suite la maille et le réseau le plus important compte tenu de ta structure économique actuelle de transfert, compte tenu de la communication.
Enfin, j'ai l'impression que certains vont pousser de hauts cris. On a tellement cru qu'il nous fallait des routes pour aller plus loin que ce que vous dites là, c'est, enfin, vous renversez tout.
Mais absolument. On a eu besoin de routes quand nous étions dans l'espace centralisé. On a eu besoin de routes régionales quand nous sommes passés de l'espace régionalisé au 19e à l'espace centralisé du 20e. Mais nous sommes dans un autre espace mégapolisé qui a éclaté justement dans un nomadisme qui devient mondial. Les réseaux que nous avons actuellement ne peuvent pas s'exprimer en termes de routes. Quelle route bâtir entre New York et Port-au-Prince? Quelle route bâtir entre Miami et Port-au-Prince? Qui sont les zones des flux qui rentrent et qui m'arrivent? Mais les flux ne sont plus, c'est-à-dire nous ne sommes plus...
Mais là, on laisse tomber l'arrière-pays.
Mais non, attends, on ne laisse pas tomber l'arrière-pays puisqu'on installe justement ces cybercafés dans toute la totalité. C'est-à-dire, c'est là pour l'école dans une section communale, pour la santé dans une section communale, pour tous les besoins d'une section communale. Le cybercafé est
plus
important. Quelque
part, ce n'est plus le café qui envoie les enfants à l'école, mais c'est le transfert.
C'est le transfert et l'économie et la communication. L'école marchera mieux avec un cybercafé, l'Internet s'il est dans une section rurale. La santé des enfants sera mieux couverte s'il y a une communication entre cette section communale et un centre latéral.
Bon, et le salaire qui est à l'étranger, parce qu'en fin de compte, c'est ça.
Il arrivera aussi mieux. C'est-à-dire que le premier réseau actuel dont on a besoin quand on réfléchit à cette mutation spatiale de la maille, à cette mutation, on rentre dans un état nouveau, c'est-à-dire où le réseau devient essentiel. Donc la priorité autrefois accordée aux routes, qui ont été des routes des portulans d'abord au XVIIIe siècle qui allaient direct pour aller vers les ports pour expédier les denrées et tout, qui au XIXe a été les 11 régions qui étaient donc liées à leur capitale, qui au XXe dans la centralité était de ramener le plus possible la marchandise, tout le monde sur Port-au-Prince. Maintenant que ceci a été éclaté, que nous avons une mégapole et puis un éclatement international, la maille qui était routière, le réseau qui était de l'ordre de la route, devient un réseau plus important encore. C'est un flux qu'il va endiguer. C'est un flux qu'il va permettre. Ce n'est pas la marchandise qui sort maintenant d'une section rurale vers Port-au-Prince qui est le fondement de l'économie. Il faut que les gens vivent, etc. C'est l'information qui va sortir de Port-au-Prince pour aller dans cette section rurale qui va être importante. C'est l'information bancaire qui va arriver très vite et qui va. C'est l'information scolaire qui va passer. Donc, enfin, l'école.
Quand vous
la
dites
santé,
l'information bancaire, on comprend bien pourquoi les banques ont pu aller partout très vite. On peut à la fois desservir les cités que de desservir les villes de province où il y avait de la circulation d'argent, alors que la décentralisation politique et le reste n'ont pas pu suivre.
Alors, si vous voulez voir à quoi consiste ce niveau réseau, il suffit d'étudier à chaque fois le réseau bancaire. Regardez où sont implantées les succursales des CAM, des transferts, des experts, etc. Regardez qui finance les camions sur le carnaval. Regardez où s'implante l'ensemble à l'extérieur et à l'intérieur. Et vous allez avoir la nouvelle dynamique.
C'est une nouvelle photo.
C'est une nouvelle photo complètement. Ouais. Et à ce moment-là, le nouveau réseau d'infrastructures, pour penser l'infrastructure, le point de départ passe au réseau et à la communication et non pas à la route. Alors, investir une montagne d'argent pour faire la route de Jérémy à Miragouane, dites-moi, qu'est-ce qui va passer par là? Ça me rappelle un jour un conflit énorme que j'ai eu avec un député dans sa folleur qui voulait absolument asphalter sa route, où il y avait un camion le matin qui allait dans sa folleur, je crois, vers Port-de-Paix, et qui un camion qui revenait l'après-midi. Est-ce qu'on asphalte une route qui coûte une montagne pour un flux de voitures, dont une voiture le matin et une voiture le soir? Alors, quand j'ai essayé de lui poser cette question, il a trouvé que c'était terrible parce que la route asphaltée permettait de ne pas avoir de la conjonctivite, de la grippe, etc. Bon, mais on ne crée pas une route pour un besoin prophylactique de santé. Alors, c'est-à-dire, on passe à d'autres préoccupations. C'est-à-dire, les gens s'accrochent, ils ont l'habitude de dire priorité à la route quand il faut l'imagination au pouvoir et la réflexion sur l'infrastructure. Et c'est cette réflexion sur l'infrastructure que commande justement cette nouvelle constitution quand il dit que l'État bâtisseur ne peut pas rester un simple État de travaux publics, de béton, de route, de trottoir, de ci, de ça. Et puis dans des travaux traditionnels, il faut une pensée d'infrastructurel. C'est-à-dire aller vers, dépasser, si vous voulez, ces métiers simplement de l'ingénieur technique et autres, arriver à une conceptualisation de l'infrastructure et se rendre compte que le réseau le plus urgent, mais le plus à portée, le plus facile, le plus immédiat, celui que nous pouvons faire en un tour de main, il n'y a qu'à voir Digicel, il n'y a qu'à voir Comcel, etc., celui qui est tout à fait à notre portée, même dans l'immensité de leurs immeubles, eh bien, le réseau de télécommunications entre tout. Alors, le jour où tous les Haïtiens auront à portée à leur capacité la télécommunication, faites-moi confiance, même les problèmes de santé vont se résoudre, puisqu'il suffit qu'il y ait une infirmière là-bas capable de communiquer avec un médecin cubain à 500 mètres ou à 10 000 km ou à Port-au-Prince avec un spécialiste. Ou surtout, un médecin de Cavaillon est capable de prendre sa communication dans sa section rurale, appeler le docteur Fouron de Montréal, immensité sommité de cette pédiatrie, de la cardiologie, du petit bébé de 2 mois, dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire du fœtus, et de lui poser des questions sur cette cardiologie du fœtus et avoir sa réponse. Automatiquement, le type, dans ce fin fond de sa région, pour pas cher, pour presque rien, peut commencer à communiquer dans un énorme réseau. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise à quoi la route peut-elle mener dans une problématique de ce genre. La route était essentielle quand il s'agissait de prendre le café, de ramener ça aux exportateurs et importateurs qui faisaient leur beurre là-dessus en pesant le coût du paysan et en l'expédiant à l'extérieur. Mais nous ne sommes plus dans une problématique de route.
Georges Anglade, nous sommes obligés de prendre la pause publicitaire, mais je crois que là, vous venez de dire des choses qui vont déranger plus d'un, aussi bien ceux qui attendent les routes que ceux qui ont envie de les construire. À tout à l'heure, chers auditeurs.